Énergie 5 heures. Beurre FM, la rediff. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver si vous suivez l'émission depuis des années. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui Sophie Hélène Zémy. Bienvenue.
Bonjour Philippe, merci de m'accueillir aujourd'hui.
Bah oui, alors c'est la première fois que je prononce votre nom en entier. Avant, j'avais pas tout ça. J'avais pas toutes ces informations.
Oui, effectivement, j'avais un pseudonyme sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas que mon identité, que les gens puissent avoir accès à mon identité.
Ouais, ça c'est quand vous étiez étudiante.
Exactement.
Et alors, on vous connaissait sous l'identité de...
De French radiologiste, c'était mon pseudo sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc.
Et on savait pas qui vous étiez. Alors maintenant, vous êtes réattribué votre identité. Vous êtes docteur en radiologie aujourd'hui à l'hôpital Cochin dans le service de radiologie thoracique. Donc, vous êtes très active sur les réseaux. Vous avez été une des premières étudiantes à venir sur les réseaux. Et vous êtes sur ce qu'on peut appeler, je mets des guillemets, une influenceuse santé. Est-ce que ça vous l'acceptez ou pas?
Alors, le mot influenceuse, malheureusement, il a une connotation très négative à cause de toutes ces stars de la télé-réalité qui ont promu beaucoup de fausses informations, notamment dans le domaine de la santé. Donc, je préfère le mot créatrice de contenu. Bon, c'est un peu plus spécifique,
En vrai, vous êtes une vraie... Alors, pour le coup, vous êtes une vraie influenceuse médicale.
J'essaie de créer du contenu informatif médical pour la population générale. J'essaie de partager mon quotidien. Donc, je l'ai partagé quand j'étais étudiante en médecine. J'ai partagé mes gardes, les déjeuners à l'internat, au self. Et je partage maintenant ma vie de chef de clinique avec les internes, les staffs, la ville hospitalière, quoi.
Ce que j'ai pas dit, c'est que vous étiez chef, maintenant.
Oui, j'ai muté comme un petit Pokémon.
Non, mais c'est incroyable, le parcours en 4 ans.
En fait, l'internat, c'était 5 ans, mais on s'est rencontrés parce que j'ai créé mon compte après la fin de ma première année d'internat, donc on s'est rencontrés au tout début, donc ça fait 4 ans,
ouais. Ouais,
on
se connaît. Comment ça a été vite, en fait?
Alors, pour moi, c'était pas rapide, mais pour vous, peut-être que vous l'avez perçu comme ça.
Voilà, non, mais c'est vrai
que pour moi, ça a pris du temps quand même.
Ouais.
Pour moi, c'était du temps. Bah, j'ai fait mon internat à Tours, donc je revenais tous les week-ends.
L'exil.
Oh non, ça va, c'était sympa quand même.
Vous racontez votre exil dans votre livre.
Oui, c'était. Bah, en fait, j'ai grandi à Paris, donc c'est vrai que c'est une ville qui est très dynamique, où ça appelle tout le temps. J'ai ma famille, j'ai mes amis. Et c'est vrai qu'à Tours, c'est sympa, mais c'était une autre ambiance. Et c'est vrai que. Je rentrais à Paris tous les week-ends parce que j'avais besoin un peu de ma vague, de ma dose d'énergie parisienne, quoi.
Vous avez fait des émules. 50% des médecins sont sur les réseaux aujourd'hui. 63% sont sur Facebook et 24% sur Insta. C'était vite, là aussi, quand même.
Oui, clairement. Bah, après, il est temps que les médecins s'emparent des réseaux sociaux. Je pense que, en médecine, malheureusement, on arrive un peu tard partout parce que les influenceurs bouffent, les influenceurs mode, ils étaient là depuis bien longtemps. Et nous, on est arrivés, moi, j'étais dans les premières, du coup, c'était en 2018. Et tout le monde me disait, mais t'es sûr que t'as le droit de faire ça, mais t'es sûr que t'as pas peur de mettre ta tête, mais imagine un patient, il te reconnaît, et où des gens viennent te voir à l'hôpital et tout. Et c'est vrai qu'il y avait une sorte de peur. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai créé mon compte sous un pseudonyme de French radiologiste, et qu'aujourd'hui, les jeunes médecins étudiants en médecine qui se mettent sur les réseaux sociaux, ils ont aucun problème à mettre leur nom, leur prénom et à s'afficher directement avec leur visage.
Au début, vous affichiez des radios.
Oui, au début, j'affichais pas mon visage parce que j'avais pas envie de montrer mon visage. Et puis, à force, l'insistance des abonnés qui me disaient « Ah, mais t'es qui ?» Alors, et plein de gens pensaient que j'étais un garçon. D'ailleurs, ça, c'était marrant. Et puis, même ma voix, de montrer mon visage et tout, c'est vrai que c'était une étape parce que, personne n'avait déjà fait, ne faisait ça. Et le face reveal, c'est vrai que c'était un moment de stress, quoi. Je me suis dit... j'étais pas bien quand je l'ai fait. Mais bon, après, je me suis habituée.
Est-ce que on vous a déjà fait sentir que vous étiez moins crédible en tant que professionnel de santé parce que vous étiez sur les réseaux? Pardon de vous poser la question.
Non, mais très bien de me la poser.
Parce que c'est vrai que vous êtes quand même. Ouais. On vous voit beaucoup.
Ouais. Il y a plusieurs choses qui ont fait que j'ai pas du tout été crédible pour certains. C'est que j'étais parisienne et que j'arrivais à Tours. Donc déjà, j'avais l'étiquette la parisienne qui vient de Tours. Je rentrais à Paris tous les week-ends, donc on me disait, ah, t'es l'interne TGV. Alors, les chefs qui étaient d'anciens Parisiens et qui étaient à Tours ont très bien compris, et justement, j'avais pas de jugement de leur part, mais les autres, c'était un peu « Ah, mais voilà, t'es la petite Parisienne, voilà ». Mais bon, après, c'était pas méchant. Le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça a été perçu par certains comme quelque chose de très bien. En mode, c'est cool que tu promeuves la radiologie, tu devrais montrer ci, tu devrais montrer ça, tu devrais montrer la radiologie interventionnelle. Et d'autres, c'était en mode, attention à ce que tu fais, ou... Oui, après, c'était plus de la part de co internes qui étaient en mode ah c'est l'influenceuse.
C'est pas les patients. Enfin, tes patients vous ont jamais.
Non. Mmh. J'ai une patiente une fois qui m'a reconnue, mais parce que je l'avais rencontrée dans un autre cadre et je lui avais dit ah bah j'ai ce compte Instagram, je commence, elle m'a suivie et 3-4 ans plus tard, elle arrive dans le cabinet de radiologie. C'est un cabinet où je fais des remplacements privés, donc en fait après chaque scanner je vois les patients et donc j'accueille cette patiente et elle me regarde, elle fait ah mais je vous connais et moi je la regarde, j'ai ah bon. Et en fait, elle m'a rappelé ce moment où on s'était rencontrés et je m'en suis souvenue. Donc voilà, ça m'est arrivé une fois.
Et vos confrères, quel regard ils portaient sur vous ?
Alors, au tout début, justement, quand c'était pas admis, quand c'était tout nouveau, c'est vrai qu'il y en a, encore une fois, qui voyaient ça d'un mauvais œil, en mode « Ah, mais elle fait ça pour se faire mousser. Ah, mais elle se la pète. Ah, mais ceci, ah, mais cela. » Donc voilà. Ensuite, quand je suis arrivée en interchu à Paris, j'ai découvert un regard beaucoup plus bienveillant là-dessus, dans le sens où c'était ah mais c'est génial ce que tu fais, ah mais du coup est-ce que tu voudrais être représentante de la Société Française d'Imagerie de la Femme Junior, t'es forte en communication, est-ce que tu peux communiquer sur telle étude sur le dépistage du cancer du poumon, parce que ma chef de service, professeur Revel, organise un dépistage du cancer du poumon pour les femmes de 50 à 74 ans qui est gratuit. C'est une étude qui s'appelle Cascade.
Alors on peut en parler justement parce que ça c'est intéressant.
Bah voilà,
parce que les femmes sont très 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 touchées par le cancer du poumon, qui était quand même un cancer de l'homme. Hein.
Parce que, fait, oui, voilà, du point de vue sociétal, avant, c'était les hommes qui fumaient, les femmes se sont mis à la cigarette, et maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des cancers du poumon. Il faut savoir que les femmes sont plus sensibles que les hommes, à niveau de cigarette égale. Mmh. Les femmes sont plus susceptibles de développer un cancer que les hommes, donc elles sont encore plus à risque. C'est pour ça, justement, que ma chef de service organise cette étude et encourage les femmes de 50 à 74 ans qui sont fumeuses ou ex-fumeuses à faire ce dépistage par un scanner thoracique low dose, sans injection. Donc c'est l'étude Cascade pour celles que ça intéresse, qui peuvent le faire gratuitement.
À noter, et vous savez, parce qu'on parle souvent du cancer du poumon dans cette émission, que le cancer du poumon touche aussi ceux et celles qui ne fument pas.
Exactement.
Ça peut arriver.
Bien sûr. C'est comme, en fait, le problème, c'est qu'il y a, pour tous les cancers, il y a des facteurs de risque et il y a des facteurs protecteurs. Par exemple, moi, j'ai des patientes qui me disent, ah, mais je comprends pas, j'ai allaité, mais j'ai eu un cancer du sein. En fait, allaiter diminue le risque, mais ne rend pas le risque nul. Donc, un facteur de risque, en fait, c'est quelque chose qui va augmenter ou diminuer le risque d'un cancer, mais ça ne va jamais rendre le risque de cancer nul.
À zéro.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Alors, vous parliez des influenceuses santé. Il y a beaucoup d'influenceuses santé aujourd'hui, mais
il y en a de plus en plus qui s'appop-up.
Oui, mais qui n'ont rien à voir avec la santé, avec le monde de la santé. Ah non, il y en a beaucoup qui parlent, notamment dans l'univers du sucre, de l'endométriose, qui sont des sujets quand même très très sociétaux.
Ouais. En fait, vous voulez dire qu'il y a des sujets de santé qui sont
non, et puis surtout des influenceuses qui s'en sont emparées de ces sujets, mais qui sont pas des toubibs.
Ah oui, d'accord, je comprends. Oui, bien sûr. Il y a les patientes qui se sont emparées de ces sujets sur les réseaux sociaux pour justement créer une adhésion avec les autres patients qui ont eux-mêmes la même maladie, donc ça leur permet au moins d'avoir une identification et de pouvoir se poser des questions et tout. Donc ça, je trouve ça bien. Après, il y a les personnes influenceuses qui ont leur notoriété et qui sont touchées par une maladie. Donc ça, je trouve ça bien aussi de sensibiliser cette maladie avec leur notoriété. Et puis après, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui promeuvent des soins, des pilules, des compléments qui sont pas forcément bons pour la santé et malheureusement qui font beaucoup de mal aux toubibs. Et je trouve que, par exemple, tu vois, je vois beaucoup de gens qui vantent les mérites des boissons au collagène. Le collagène, c'est du pipeau. Les gens qui boivent du collagène à longueur de journée, c'est du pipeau. Donc en plus, ça coûte super cher. Donc franchement,
mais plus c'est cher, plus ça marche, hein.
Ouais, mais moi franchement, ça me fait mal au cœur quand je vois tous ces gens qui sont là le matin avec leur petit verre. Je me fais ma cure de collagène. Non, ça ne sert à rien. Le collagène, c'est une protéine, et en fait cette protéine, après, elle va être dégradée dans ton corps en acides aminés, et ton corps, en fait, il s'en fout de savoir que c'est du collagène ou pas. Il voit les acides aminés, lui, donc. Ça n'a aucun sens.
Mais ce qui prouve que si vous avez une communauté qui est forte, elle peut adhérer au message que vous faites passer. Hein,
oui, alors ma communauté, initialement, c'était beaucoup d'étudiants en médecine, puisque je postais des cas de radiologie. Ensuite, il y a des infirmières, il y a des aides-soignants, il y a des manipulateurs radio, donc je touche quand même une large population médicale. Et c'est pour ça aussi que ma lignée éditoriale, j'ai cherché à l'étendre le plus possible et à simplifier un peu les sujets que j'abordais, parce que mon but maintenant, c'est de toucher le plus de gens possible et que les gens prennent soin d'eux, parce que je pense que l'information médicale directe, c'est la meilleure façon en fait de sensibiliser les gens pour qu'ils prennent soin d'eux.
Et de casser les fake news. Mais voilà, ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Pour en terminer sur le sujet, on va parler de votre livre. Alors, un médecin sur les réseaux, de quoi il peut parler et de quoi il peut pas parler? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas aborder?
Alors, sur les réseaux sociaux, tout à fait. Déjà, il faut respecter l'identité du patient, c'est-à-dire le secret médical. On ne peut pas dire j'ai soigné telle personne ou telle personne. Il faut que si on poste des cas, que le patient ne soit pas reconnaissable. Donc, par exemple, si c'est un cas de radiologie sur une appendicite aiguë, il n'y a pas de problème. Mais si c'est un cas de radiologie sur une maladie très rare, j'ai pas le droit de le faire. Parce que justement, le patient peut être reconnu.
Pourrait se reconnaître, en fait.
Pourrait se reconnaître, ouais. Voilà. Mmh. Ensuite, du point de vue déontologique, on n'a pas le droit aussi d'avoir des propos dégradants sur un confrère. Donc, il faut faire très attention aux façons dont on communique avec les professionnels de santé, notamment les médecins. J'ai déjà un ami, je connais quelqu'un qui s'est déjà fait épingler sur les réseaux sociaux pour avoir tenu des propos sur quelqu'un qui était aussi médecin. Donc, il faut faire attention là-dessus. Donc, il faut rester professionnel et déontologiquement correct. Et
ce qui veut dire qu'un médecin n'est pas entièrement libre de ses publications.
Non, et puis il n'a pas le droit de faire de la pub pour son cabinet, pour son activité. On n'a pas le droit de dire je fais tel acte, venez dans mon cabinet, voilà.
Oui, mais à partir du moment où vous parlez de vous et de ce que vous faites, c'est une forme de faire de pub, non?
Bah honnêtement, en fait, je travaille à l'hôpital, donc
je... Non mais je parle pas de vous, hein.
Ah
mais
oui,
mais quand vous êtes là, enfin, je veux dire.
Oui, en fait, le fait de se montrer, c'est une forme de publicité. De toute façon, les gens peuvent vous retrouver maintenant sur Internet et savoir où vous exercez. Donc, c'est une pub indirecte. Après, il faut savoir que c'est la France qui a ces règles-là et que dans d'autres pays, aux États-Unis, au Portugal, ils n'ont aucun problème à faire de la pub pour leur cabinet. Et aussi, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de faire de la pub pour des médicaments, pour des produits de santé. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y a plein de dermatologues qui posent avec des crèmes et qui disent cette crème, elle est bonne pour la peau, elle est prouvée. Testé dermatologiquement, voilà. Donc nous, on n'a pas le droit de faire de la pub avec des produits pharmaceutiques.
Le Conseil de l'Ordre veille.
Mais est-ce que les lignes vont bouger? Parce qu'en vrai, il y a de plus en plus d'influenceurs dans la santé. Moi, je pense qu'il faudrait faire un code de déontologie pour les médecins qui sont sur les réseaux sociaux. Spécifiquement pour ça, parce qu'ils ont fait un code de déontologie. Enfin, ils avaient fait une partie les médecins sur Internet. Je pense qu'il faudrait faire une partie les médecins sur les réseaux sociaux, code de bon usage sur les réseaux sociaux, et se mettre d'accord sur vraiment écrire noir sur blanc ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, parce que pour l'instant c'est pas le cas. Mais bon, voilà, on a quand même le code de déontologie qui nous dit on peut faire ci, on peut faire ça, mais pas spécifiquement sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'encore une fois, il y a d'autres pays où ils sont beaucoup plus libres. Donc est-ce qu'il faudrait peut-être un peu casser
harmoniser les règles européennes, notamment? Vous publiez votre premier livre, s'appelle Docteur Re. Je sais pas comment on va prononcer, hein, médecine au rayon X aux éditions de l'Iconoclaste. Tiens, tenez-le comme ça, vous allez pouvoir le montrer à la caméra. Et vous êtes The French Radiologist, notre invité jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. La Rediff. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, le docteur Sophie Lenzemi est notre invitée, docteur en radiologie. Chef maintenant à l'hôpital Cochin.
Chef de clinique, je précise.
Chef de clinique, oui, de
clinique. Parce que tout le monde me dit, ah mais t'es chef de service. Non, je ne suis pas chef de service.
Pas encore,
je suis chef.
Mais c'est après.
On verra.
Ouais. Combien de temps pour avoir un rendez-vous à Cochin pour une IRM?
Ça dépend du degré d'urgence, mais en général, c'est 1-2 mois. Ça dépend de la pathologie, ça dépend de la vacation, parce qu'on fait, à Cochin, on fait de l'ostéo-articulaire, on fait de la gynéco, on fait du digestif, on fait de la pneumo. Donc, en fait, en fonction de la pathologie, il y a des délais d'attente qui sont différents.
Mmh. Bon, tout ça à l'hôpital public. Vous allez tenir longtemps à l'hôpital public ou vous allez faire comme beaucoup de gens de votre génération, vous installer en libéral?
Alors, je sais pas trop. En tout cas, moi, j'adore l'ambiance à l'hôpital. Le service de radiologie où je bosse, il y a une super ambiance. Que ce soit avec les co-chefs, les internes, il y a une émulation intellectuelle. On a des staffs, on a des formations, on est au courant des dernières données de la science. Donc, je trouve que, intellectuellement parlant, c'est hyper riche.
C'est stimulant.
C'est hyper stimulant.
Ouais.
Et c'est pour ça que, pour moi, rester un pied à l'hôpital, c'est hyper important.
Vous dites qu'il y a des cas rares.
Il y a des
qu'on
cas...
verrait pas, peut-être, en libéral.
Oui, il y a des cas rares. Et puis, il y a des précisions d'analyse des images, de sémiologie. Il y a des partages de connaissances. Et en fait, on partage tous cette même passion ensemble. Et je trouve que l'échange qu'on a avec les collègues, il est quand même hyper important. Et donc, c'est pour ça que je pense que je garderai la moitié du temps à l'hôpital ou une demi-journée, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, je compte rester à l'hôpital, être PH mi-temps ou PH à temps partiel, je verrai. PH, ça veut dire praticien hospitalier. Donc, je garderai un pied à l'hôpital et à côté, j'irai aussi en libéral.
Bon, il faut expliquer à ceux qui nous écoutent que vous êtes docteur par vocation. Bon, au départ, avant les cours de dissection, vous vouliez être chirurgienne esthétique.
Oui.
Ça paye bien. Hein.
Oui, mais
alors,
fait...
là, pour le coup, à la clinique des Champs-Élysées, vous seriez royale.
Oui, alors en fait, je voulais faire chirurgie esthétique parce que j'adorais l'art plastique, le côté esthétique des choses. Et je me disais, j'avais l'impression que le corps était une œuvre d'art. Et je me disais, je vais sublimer les corps, je vais gommer les complexes que peuvent avoir les gens sur leur physique. Et je vais les rendre heureux grâce à ça. Et en fait, j'ai enchaîné pendant mon externat deux stages de chirurgie, donc trois mois. Et malheureusement, j'ai pas été convaincue.
En urologie et
en urologie et en chirurgie maxillofaciale. Et en fait, quand j'ai vu, parce que en chirurgie maxillofaciale, en fait, c'était à Necker, donc c'était les enfants. Et en fait, c'était souvent des becs de lièvre qu'on reconstituait. Donc c'est les fentes labiopalatines.
Alors ça, c'est presque de la chirurgie esthétique. Hein,
ah oui, c'est clairement. Ouais. Voilà, c'est. Et en fait, quand j'ai vu.
C'est la
point.
Vraie chirurgie esthétique,
oui.
D'ailleurs, ça.
Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Et la chirurgie réparatrice aussi, les morsures de chiens qu'on faisait, parce qu'il y avait des patients, des enfants qui se faisaient mordre par des chiens et du coup qui avaient une partie du visage qui était en lambeaux, donc on faisait cette chirurgie-là. Et en fait, j'ai vu la finesse des gestes du chirurgien. Pour moi, vraiment, c'était de la dentelle. Ce qu'ils faisaient, c'était hyper précis. Mais je me suis rendu compte en fait que c'était pas ça qui me stimulait, que voilà, je regardais les opérations. Après j'étais passive parce que forcément c'était le chef et l'interne qui opéraient, moi j'étais la petite externe, et je me suis pas sentie portée en fait par le monde de la chirurgie. Faut se lever hyper tôt le matin, faut se lever tout le temps les mains, faut être tout le temps stérile. Tu peux pas faire ce que tu veux entre les blocs, tu peux pas, enfin,
c'est très
protocolaire, voilà. Ouais. T'as tes lunettes. Moi, une fois, je me souviens, j'avais mes lunettes qui tombaient, qui glissaient sur mon nez, et sans faire exprès, par réflexe, j'avais repoussé mes lunettes, et là, direct, je faute de stérile, nan. Donc, on m'avait apporté des nouveaux gants. Et voilà, c'est vrai que une vie de chirurgien, c'est un rythme qui est très très dur, qui est très très lourd. Et je pense pas que j'avais les épaules ni l'envie, en fait, de me lancer dans cette carrière. Donc voilà, il y avait un monde entre le fantasme et la réalité.
Alors vous avez choisi une spécialité dont les étudiants aujourd'hui de médecine se détournent parce qu'ils pensent que c'est une spécialité qui sera remplacée par l'IA, par l'intelligence artificielle. Et vous dites que finalement, non, l'intelligence artificielle ne remplacera pas l'humain, en tout cas dans la radiologie.
Même dans la médecine en général, je le pense. Je pense que...
Mais pourquoi vous pensez ça? Vous êtes aussi sereine par rapport à ça?
Parce que, en fait, j'ai... L'IA, aujourd'hui, on l'utilise déjà à l'hôpital, et l'IA, c'est un outil d'aide au diagnostic. C'est-à-dire que, par exemple, au scanner, je fais des scanners du poumon, et en fait, l'IA, le logiciel avec lequel on travaille, il nous aide à mieux voir les nodules du poumon. Donc, il nous dit, j'ai vu X nodules qui font telle taille, qui ont tel volume. Et parfois, l'IA, il y a des choses qu'elle voit pas, mais que nous, on voit qui sont énormes. Et parfois, l'IA, elle voit des choses que nous, on n'a pas vues, qui sont toutes petites. En fait, l'IA et le radiologue, il y a des études qui montrent que l'IA seule, c'est bien, le radiologue seul, c'est bien, mais l'IA plus le radiologue, c'est encore mieux. Donc, en fait, c'est la complémentarité de l'IA avec le radiologue qui va faire qu'on va devenir des super radiologues, et les jeunes radiologues doivent s'emparer justement de ces outils parce que justement, ça nous permettra d'être plus performants et donc de mieux prendre en charge les patients. Donc, pour moi, c'est une chance de pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle. Et du point de vue responsabilité médicale, ça ne peut pas être un fabricant d'IA qui prend toute la responsabilité médicale parce que, admettons, l'IA ne voit pas quelque chose. À qui la faute? Parce que en soi, c'est pas un être humain derrière, c'est un logiciel. Donc, est-ce qu'on peut reprocher à la personne qui a fabriqué le logiciel de pas avoir vu une maladie?
Mais elle peut pas progresser, l'IA, vous pensez?
Bien sûr, si. Je pense que là, on est au tout début de l'IA. L'IA va encore plus progresser, mais je pense quand même que pour valider un compte rendu, pour il faudra passer quoi qu'il arrive derrière l'IA, parce que l'IA, c'est quand même quelque chose qui n'est pas humain, encore une fois, qui ne prend pas en compte le contexte médical, qui prend pas en compte les informations. Moi, ça m'arrive souvent, parfois, quand je suis devant une imagerie, d'appeler le médecin et de dire « Mais est-ce que le patient a de la fièvre ?» ou « Est-ce que le patient a mal ici ?» Pour mieux analyser les images, en fait, on a besoin du contexte clinique. On n'analyse pas des images brutes. Voilà. Donc, faut les données biologiques aussi. C'est un ensemble de choses que l'IA, elle, n'a pas.
Oui, d'ailleurs, dans certaines radiologies, il y a des doubles lectures. Donc, voilà.
Oui, voilà, pour le dépistage du cancer du sein, les mammographies qui sont normales sont relues par un radiologue pour être sûr que le premier radiologue n'a pas loupé quelque chose. Et en ce moment, encore, il y a une étude qui fait qu'il y aurait une triple lecture ou que la double lecture soit faite par une intelligence artificielle. Donc ça, ce serait peut-être... c'est à voir, c'est en cours d'étude.
Mais la radiologie, ça n'a pas la cote à cause de l'IA ou pas?
Alors, c'est à cause de l'IA, et c'est malheureusement ça, parce qu'il y a beaucoup de professeurs de médecine qui disent « Non, mais les radiologues, c'est une espèce en voie de disparition, c'est les futurs dinosaures de la médecine, ils vont être remplacés par l'intelligence artificielle, il n'y a
Donc
plus rien à faire. »
Donc c'est vraiment un discours qui
oui.
existe.
Ah ouais. Mais moi, je reçois plein de messages d'étudiants de médecine qui me disent « Mais t'es sûr pour ce que tu dis sur l'IA, t'es sûr que les radiologues vont pas disparaître ?» Et moi, j'entends des gens qui, justement, ne choisissent pas radiologie parce qu'ils ont peur de ça. Et malheureusement... moi, c'est quelque chose aussi qui se murmurait dans les couloirs, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et aussi, il y a un autre sujet, c'est la financiarisation des cabinets de radiologie. C'est-à-dire que maintenant, il y a de plus en plus de groupes financiers qui rachètent les cabinets de radiologie. Et donc, ce ne sont plus les radiologues qui sont propriétaires et investisseurs des locaux, mais des groupes financiers. Et ça fait peur aussi.
Ça a changé, finalement. Mais pourtant, c'était votre choix numéro un. Vous êtes sorti plutôt bien... classé de l'école de médecine et vous avez mis en choix numéro 1 radiologie.
Oui, parce que...
Qu'est-ce qui fait qu'on fait radiologie et pas dermato...
J'ai hésité avec la dermato.
Ophtalmo, qui sont quand même des filières très cotées.
Oui, alors l'ophtalmo, j'ai fait des gardes en ophtalmologie justement parce que je voulais être sûre que c'était... Parce que dans les livres, j'adorais l'ophtalmologie, je trouvais ça génial, c'est hyper intéressant. Et puis en fait, j'ai fait des gardes en ophtalmologie et pour voir un peu comment c'était en réel. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait des choses que... Des gestes, par exemple, j'ai vu une injection intravitréenne. Donc, on met un écarteur dans l'œil du patient. On met une petite aiguille comme ça. Et le patient, il a son œil qui est complètement figé. Et là, j'ai dit non, c'est vraiment pas pour moi.
Après, décidément, il y a plein de choses que vous pouvez même pas faire. Hein.
Ouais. Mais parce qu'en fait, je pense que je suis hyper sensible. Et quand je vois des choses, en fait... sur les gens, et ben ça me, j'arrive pas en fait. Moi, j'ai un souvenir d'une garde qui m'a vraiment marqué. C'était quand j'étais externe. C'était un patient qui parlait pas français, qui était dans la salle d'attente, habillé tout en blanc, avec un bras qui était emmailloté dans des linges blancs. Et je voyais quelques gouttes de sang. Et puis, moi, j'étais externe.
C'est quelqu'un qui travaillait sur les chantiers, ça.
Voilà, c'était quelqu'un qui travaillait sur les chantiers.
Moi, j'ai sauté la page du coup après. Ah, j'étais mal.
Et en fait, normalement, les externes, on a les petites urgences, les urgences de niveau 1 et 2. Ouais. Les grosses urgences, c'est pour les internes et les chefs. Et donc, moi, je vois cette petite urgence, parce que c'était pour moi, du coup, et je me dis, bon, ça doit pas... Qu'est-ce qu'il a ? Donc, le monsieur arrive, il parlait pas français, et donc, il me montre son bras, et donc, pour comprendre, fallait que je défasse le linge blanc, et là, j'ai des bouts de steak de chair de son bras qui voient... Et là, je referme le bandage et je vais voir vite un chef et je dis qu'est-ce que je fais. Il me dit appelle vite le chirurgien orthopédique. Donc j'appelle en urgence le chirurgien orthopédique qui est venu et qui a pris en charge le patient par la suite. Donc c'est vrai que moi ces choses-là malheureusement je suis trop sensible et donc c'est comme ça que je me suis détournée de l'ophtalmologie et que je me suis aussi détournée de la dermatologie parce que je me souviens être entrée dans la chambre d'une patiente qui avait un ulcère de jambe artérielle, donc c'est des ulcères qui font très très mal et il y avait une très forte odeur dans la chambre et la patiente hurlait de douleur et là c'est là où ça suintait et tout et c'est là je me suis dit la dermatologie c'est pas sur moi. Donc les gens vont dire je suis peut-être une petite chochotte.
Je suis une chochotte.
Mais
vous pouvez vivre qu'avec des rayons et des ondes.
Et en fait voilà, en fait ce qui est bien c'est que, et aussi je me disais mais l'ophtalmo c'est bien mais du coup je fais que les yeux, la dermato c'est bien mais du coup je fais que la peau, alors que j'ai appris toutes les maladies. Et en fait ce qui est génial en radiologie c'est que je brasse de la tête aux pieds les êtres humains et que je déteste toutes les maladies, qu'elles soient infectieuses, inflammatoires, les cancers. Donc je continue en fait à voir toutes les pathologies que j'ai apprises à l'intérieur avec des images et je trouve que c'est génial parce qu'on est la clé de voûte dans la prise en charge du patient parce que c'est nous qui, avec le diagnostic qu'on pose, va permettre la prise en charge, le traitement, la chirurgie, le médicament, etc.
D'accord, mais est-ce que c'est vous qui posez le diagnostic ?
Oui, tout à fait.
D'accord.
En fait, nous on a les éléments.
Et qu'il l'annonce au patient ?
Ça dépend. Ça dépend quand je suis dans des... Encore une fois, quand je fais les remplacements dans les cabinets privés, oui, parce qu'après, chaque scanner, on prend le temps d'avoir une petite consultation où on explique aux patients les résultats. À l'hôpital, la charge de travail fait que on n'a pas le temps de voir les patients. Et puis en plus, il y a les brancardiers qui ramènent les patients dans les chambres et tout. Enfin, à l'hôpital, on est tellement inondé tout le temps d'appels, de stimulations à droite, à gauche, qu'on n'a vraiment pas le temps de voir les patients. Et c'est pour ça que le privé, c'est plus cool, entre guillemets, dans le sens, on a moins de petites tâches à faire. Donc, c'est vrai que ça porte un confort, en fait, dans le travail. Et ce qui fait qu'on a le temps d'expliquer les résultats aux patients. Par contre, en scénologie, que ce soit à l'hôpital ou dans le privé, on explique chaque mammographie à chaque patiente. Et on explique chaque résultat à chaque patiente à chaque fois. Donc, pour les mammos, on voit toujours les patients. Pour les échos aussi, hein, quand tu fais les échographies, que tu sois dans le public ou dans le privé, t'es avec le patient, tu lui fais son écho, tu lui expliques ce que tu vois.
Bien, et votre premier livre vient de sortir, s'appelle Docteur Reuf, aux éditions de l'Iconoclaste. Ça vous va bien, tiens, en plus, Iconoclaste, médecine au rayon X. Et on parle justement de The French Radiologist jusqu'à 13h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, bien plus qu'une radio.
باقي ما طاح ضد الخوانة رضاك يما سلاح اللي فيه نداوي فيا كيجرح واش اللي قادي نعاسو كيرتاح
بابي اخوني هاي باش خون الصحة راقو ديما فرحة ما درب حساب الملحة انا هم قيمة باو اللاقة رجعوا سلعة عارفك غام فقوصة بحال شي كاسكي واسي قرعة بحار الرجلة ولدك عايم مع عواب ما تخروا لياب ما تسوقوا مدام لي كانوا احبابي قباعوا لي الوهاب خلاوني وسط الطلاب كاتشا في لياب شبار الخير وكان عيط شكون لي فاهم حالي حسرة معاش لبالي ما فادوني موالي في مدام تقصد ربي واحبابي زادوا ولي ما قروش بطعامي ظهري كله ضرابي عشنا عيشة مصوصة طاقت زاد فطوصة شبيبة مخصوصة والفرحة خاص فلوسة عياطنا على الكبر والقطعة جات صوتة أعصابي فوق البوطة عرف أخر تروضة غير قولي لي أش غادي معايا ندي أش غادي معايا ندي هادوك لولي تجلدي بيتك انتي فطيحة كنتي ضدي حاولي وحدي سيفتيك اليهودي وليت عايش كشبح دابا يشدوني الرياح قاموا أقاد صراح فريرة منك عدد مع الشاوي وصلابان كندير مسافة الأمان بانو في العيد والقناني وفي التصلون عني راجل ماشي رواني في راجل الشدة تلقاني بانو في العيد والقناني وفي التصلون عني راجل ماشي رواني في نهار الشدة تلقاني لمن دادي ندادي ويبش في وتادي كنت عطيت وفادي ويحوص العراس شبار الخير وكان عيطش كلي فاهم حالي حسرة معاش لبالي فادوني موالي في مدن تقصد ربي وحبابي زادوا ولي ما قروش بطعامي ظهري كله ضرابي هدا قدك هدا قدك يا لميمة لا تطوليش الغيبة أفراتك مصيبة هدا قدك هدا قدك يا الحبيبة يا وديري ميدا فيها نعناع وشيبة هدا قدك هدا قدك يا لميمة لا تطوليش الغيبة افراتك مصيبة هدا قدك هدا قدك يا الحبيبة يا وديري ميدا فيها نعناع وشيبة كاين بيناتنا شبه مع الشاوي وصلابان كندير مسافة الامان وليت عايش كي شبح دابا يشدوني الجوال غامو اقاط الصراح الامور ما عنده تمن لكن في سبيل الله اجي نعيشو في سلام الامور ما عنده تمن لكن في سبيل الله اجي نعيشو في سلام.
Il y a des apparts qu'on n'oublie pas. Le premier, vous en avez rêvé. Le deuxième, vous y avez fait un peu trop la fête. Et le dernier, où vous n'êtes plus tout à fait seul. Nous, on est très contents pour vous, mais on ne peut pas tout deviner. Alors pensez à vérifier votre adresse en faisant votre déclaration de revenus sur impots.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement.
Actu, podcast, playlist, retrouvez le meilleur de la radio sur l'appli Beurre FM, disponible sur Apple Store et Play Store. Beurre FM, bien plus qu'une radio. Beurre FM, la rediff. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, vient de nous présenter son premier livre qui s'appelle Docteur aux éditions de l'Iconoclaste, médecine au rayon X. C'est The French Radiologist, vous la connaissez sur les réseaux sociaux par ce nom-là, mais elle s'appelle Sophie Hélène Zemi. Alors, c'est un livre peut-être à destination des étudiants, les futurs étudiants en médecine d'ailleurs.
Oui, alors c'est un livre pour ceux qui se posent la question de la médecine, quel est l'univers médical, comment se passent les gardes, comment se passe l'ambiance carabine. Donc c'est pour ceux qui veulent faire médecine, c'est pour ceux qui sont en médecine.
L'ambiance
carabine.
Oui, c'est un vrai sujet ça.
Oui, parce que les carabins, c'est le nom qu'on donne aux étudiants de médecine, parce que j'ai plein d'amis qui me disent mais c'est quoi un carabin? Un carabin, c'est le nom qu'on donne aux étudiants de médecine, voilà. Et ce livre, c'est pour ceux qui veulent faire médecine, c'est pour ceux qui sont en médecine, parce qu'il y a plein de conseils aussi dedans, des situations que j'ai vécues où j'explique un peu comment aborder une garde, comment aborder les examens. Et aussi, c'est pour les parents.
Il y a une méthode, hein, pour tous ceux. Déjà, il y a une méthode pour la première année, en 10 points.
C'est ça.
Comment réussir sa première année?
Les 10 commandements, les 10 commandements.
Alors avant la première année, c'était vachement important. On a l'impression qu'aujourd'hui, c'est moins dur qu'avant.
Ah non, moi j'ai l'impression que c'est de plus en plus dur.
Ah ouais?
Ah oui. Moi je trouve que
ils ont pas ouvert les vannes.
Bah en fait, ils ont augmenté le nombre d'étudiants de médecine, mais le concours pour moi il est de plus en plus dur. C'est-à-dire que moi par exemple, mon grand-père qui a fait médecine, quand parfois il me voyait réviser des cours et il me disait ah mais ça c'est ça, et je le voyais expliquer, et en fait moi le seuil de connaissances qu'on nous demandait c'était beaucoup plus précis que je pense ce qu'on demandait il y a 50 ans en médecine, parce
qu'il était épate, non?
C'est-à-dire anapathe. Mon grand-père était anatomopathologiste.
Comment vous dites?
Anatomopathologiste. Ah ouais. C'est-à-dire qu'au microscope, il regardait les tissus du corps humain qui avaient été prélevés, et il regardait les cellules, et il regardait si c'était des cellules qui étaient inflammatoires, cancéreuses, etc.
Donc, quand vous étiez petite, vous l'aidiez avec votre microscope?
Ouais, j'adorais regarder le microscope de mon grand-père, et à Noël, j'avais eu un microscope en plastique où il y avait une petite aile de mouche que je pouvais regarder, voilà, donc je regardais
C'est pour ça que vous avez fini radiologie.
Oui, en fait, j'ai fait un peu comme mon grand-père, mais derrière les écrans. Et derrière, mon grand-père disait que des radiologues, c'était des photographes du corps humain, mais bon, c'est un peu plus que ça, hein, mais voilà.
Beaucoup sont tentés par les études de médecine à l'étranger.
Alors, c'est pas qu'ils sont tentés,
notamment.
Ouais, c'est pas qu'ils sont tentés, c'est plus que ils font le concours de médecine en France et que ils sont recalés malheureusement parce qu'il y a pas assez de place et que le concours est assez sélectif et assez dur. Et en fait, du coup, et ben ils ont l'option d'aller faire médecine en Roumanie, d'aller faire médecine en Belgique, d'aller faire médecine en Espagne. Et donc voilà, c'est une voie qui leur permet d'accéder aux études de médecine dans d'autres pays. Et après, il y a des étudiants qui font des Erasmus, donc les Erasmus, c'est des étudiants qui font médecine en France, qui vont faire un stage de quelques mois en Italie, en Espagne, etc.
Vous abordez la question du coût des études de médecine. C'est gratuit, non?
Bien sûr, comme toutes les études. Non, je rigole. Mais en vrai, non, les études de médecine, ça coûte, c'est un prix, parce que y a les prix d'inscription à la fac comme n'importe quelle faculté. Et il y a aussi le prix des bouquins de médecine. Il faut savoir qu'un collège, ça coûte environ 40 euros.
Un collège, c'est...
Le collège, c'est le référentiel des bouquins de médecine. C'est là où c'est les professeurs qui font les concours, qui écrivent ces livres. Et donc, c'est toutes les connaissances qu'on doit avoir pour les concours, c'est dans ces livres. Et il y en a beaucoup, beaucoup à avoir. Donc, ça coûte cher. Ensuite, y a à se nourrir le midi, comme tous les étudiants. Mais voilà, c'est... Nous, en fait, l'externe en première année de médecine, je parle de l'externat, il gagne 273 euros par mois. Donc 273 euros par mois, c'est pour un externe qui va travailler tous les matins à l'hôpital, qui va faire des tâches de secrétariat parce qu'il n'y a pas assez de secrétaires dans les hôpitaux, qui va aller faire des photocopies, qui va faire des ECG parce qu'il n'y a pas assez d'infirmières, qui va aller brancarder les patients parce qu'il n'y a pas assez de brancardiers. Donc
c'est moins cher qu'un stagiaire, en fait.
Voilà, c'est moins cher qu'un stagiaire.
C'est ça que ça veut dire. Ouais.
Et le reste de l'après-midi, il va foncer à l'hôpital pour aller réviser ses cours. Donc la première année de l'externat, il est à 273 euros par mois. Et à la fin de l'externat, donc en dernière année d'externat, l'année du concours, il est à 409 euros par mois. Donc, c'est difficile pour un étudiant de vivre avec 273 euros par mois ou 409 euros par mois. Et en prenant, parce que le midi, il doit prendre en charge son déjeuner. Le soir, il doit prendre en charge son dîner. Et puis, s'il n'est pas logé chez ses parents, il doit prendre en charge aussi son loyer. Mmh. Et en plus, après, il y a le coût des livres, il y a le coût des fournitures, les stabilos, les stylos, etc. Il y a le coût des transports. Et c'est vrai que tout ça, ça représente un budget, mais comme tous les étudiants. Sauf que l'étudiant de médecine, il est payé moins que le SMIC horaire, en fait. Et les gens nous disent que les études sont gratuites, mais comme les études de philosophie, du coup, sont gratuites, comme les études pour être prof sont gratuites. Mmh. Enfin, en fait, toutes les études.
Faut avoir une famille qui puisse suivre derrière.
Je pense que oui, il faut avoir, ou alors faire un prêt à la banque, malheureusement. Après, moi, j'ai des copains pour des grandes écoles qui sont, par exemple, HEC, etc., qui ont dû faire des prêts à la banque. Donc voilà, il y a l'option des prêts qui est envisageable. Mais moi, j'avais un collègue, je sais pas pourquoi, il volait le PQ du service de l'hôpital. Et j'ai jamais su si c'était parce qu'il avait pas les moyens ou parce qu'il avait pas le temps de faire les courses. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des étudiants de médecine qui sont dans une certaine précarité parce qu'ils sont pas forcément aidés par leur famille ou par la banque, etc. Et les gens n'en ont pas conscience, en fait.
On pense que c'est un milieu de privilégiés, en fait.
Bien sûr, c'est ouais, ça. Ouais. On pense que, c'est vrai qu'après, malheureusement, il y a des gens qui réussissent médecine et qui sont fils de médecins, mais ils vont pas s'excuser d'avoir réussi médecine et d'être fils de médecin. Il y a un moment où faut pas non plus tourner le problème à l'envers. Mais il y en a qui réussissent médecine et qui n'ont rien à voir avec la médecine et qui s'en sortent très bien aussi.
Alors, vous êtes une des rares à aborder la question de la relation patient et docteur. En quoi elle a changé cette relation? Parce qu'avant, voilà, on allait chez son docteur, on l'écoutait, on était.
C'est la fin pour moi, c'est la fin du médecin tout puissant. C'est-à-dire que moi, quand je vois mon grand-père, par exemple, j'avais l'impression que c'était le grand professeur, le grand savant que tout le monde écoutait. Et c'est vrai que nous, maintenant, à notre époque, on est beaucoup plus remis en cause parce que il y a eu l'arrivée d'Internet. Et avec Internet, en fait, tout le monde peut aller s'informer, chercher des informations. Il y a aussi une accessibilité. Alors, je parle pas des délais de rendez-vous, mais une accessibilité aux informations médicales qui est beaucoup plus facile et aux médecins qui est beaucoup plus rapide aussi. Et donc, les gens ont l'impression que, en ayant lu des articles ou en ayant écouté des vidéos sur telle maladie, ils ont la connaissance des pathologies. Et donc, il y a beaucoup plus de gens qui vont demander plein d'avis à des médecins différents qu'avant. Avant, le médecin, il vous disait, vous prenez ce médicament matin, midi et soir. Maintenant, on vient avec l'ordonnance, on va voir notre docteur et on essaye de savoir s'il n'y a pas une autre façon de faire. Donc, voilà, il y a des patients qui vont prendre plein d'avis et qui remettent en cause la parole des médecins. Et je trouve que...
Vous les appelez comment, ceux-là? C'est les médecins malgré... Enfin, c'est
Le médecin malgré lui, c'est celui qui a soit des parents médecins ou qui croit qu'il sait tout sur la médecine et qui, du coup, pense mieux savoir que les médecins.
Donc, il va valider, en tout cas, le diagnostic qu'il a déjà fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Et il va se dire, à quoi sert un médecin, en fait? Est-ce que je suis médecin? Oui, j'ai fait, pour rigoler, un jeu des 7 familles de patients. C'est Jules qui m'a donné l'idée, qui m'a dit, mais tiens, Sophie,
Jules qui collabore au livre, on l'a pas encore cité.
Oui, c'est Jules. Ouais. Jules qui est le dessinateur, voilà. Qui est auteur et dessinateur de BD, qui est un ami que j'ai croisé un soir et je voulais écrire un livre de médecine, je voulais que ce soit imagé avec...
Il vous a pas raté quand même.
Ouais, bon. Hein? Ça, c'est mes copains m'ont dit, mais.
Ouais, vous a pas raté. Hein.
Après,
vous êtes beaucoup plus jolie en vrai que vue par Jules.
Merci beaucoup, Philippe. Après, c'est de la bande dessinée, donc moi, je suis pas très attachée à mon image, mais voilà. En fait, le livre est agrémenté de bande dessinée parce que je voulais que ce soit un livre mi-texte, mi-BD. Mmh. Et en fait, je savais pas qui prendre comme dessinateur de BD parce que j'avais déjà l'idée du livre. Et un soir, je croise Jules et je lui dis, mais tiens, ça te dirait qu'on écrive un livre ensemble? Et il me dit ouais carrément, et c'est ainsi que l'histoire est partie. Mais pour revenir sur ce que tu disais,
justement sur les rapports entre les médecins et les patients aujourd'hui.
C'est ça. Je trouve que il y a de plus en plus de remises en cause des médecins, il y a de moins en moins de respect pour les médecins, pour les professionnels de santé. Donc on a été applaudis pendant le Covid parce que tout le monde avait les pétoches et tout le monde était en mode « Oh waouh, eux, ils continuent d'aller sur le front et d'aller travailler ». Mais après le Covid, il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que moi, j'entends des patientes, parfois je suis en salle de lecture, je suis devant mon scanner et j'entends quelqu'un qui crie dans la salle d'attente et je vois une patiente qui hurle sur la secrétaire. Alors j'interviens, j'explique à la patiente qu'on n'est pas à l'hôtel ici, mais qu'on est à l'hôpital public, qu'on respecte le personnel soignant et qu'on n'est pas, on est là pour soigner les gens dans le respect mutuel et que voilà, ça se fait pas de crier sur le personnel soignant, comme ça se fait pas de crier sur n'importe qui en fait. Je trouve qu'il y a des dérives dans les comportements des patients parfois et je trouve qu'il y a...
Ça manque de respect plus que...
Moi, je trouve que oui, on respecte beaucoup moins les blouses blanches qu'avant, oui, bien sûr. J'en suis convaincue et je le vois, en fait, même dans les commentaires de certains sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, le problème, c'est que malheureusement, il y a eu quand même des scandales qui ont fait que la confiance dans les médecins s'est perdue avec l'affaire du sang contaminé, avec l'histoire du Covid aussi, parce qu'il y a eu des avis divergents. Le Covid, ça a beaucoup divisé les Français sur les traitements. Donc voilà, ça a fait qu'il y a eu une sorte de méfiance autour des médecins. Et c'est dur de rétablir une relation de confiance.
Je ne sais pas si c'est les traitements qui ont divisé les Français, mais c'est parce qu'aussi...
L'hydroxychloroquine VS le vaccin.
Oui, d'accord. Mais il y a aussi une catégorie de Français qui avait l'impression qu'elle ne pouvait pas s'exprimer librement.
Oui, aussi. Ou le masque aussi. Porter le masque ou pas porter le masque.
Donc finalement, il y avait une opposition. C'était pour ou contre.
C'était frontal, en fait. C'était plus politique pour moi que médical et basé sur la science, malheureusement. J'ai l'impression que l'histoire du Covid, c'était plus une affaire politique qu'une affaire de scientifique. Et c'est ça, vraiment, je trouve, qui m'a vraiment frappée pendant cette épidémie. Et en fait, aussi, la médecine, c'est une affaire politique. Donc voilà, il y a des gens qui prennent parti.
Vous avez écrit un chapitre sur être femme en médecine. Ouais. Vous avez écrit ce chapitre avant le MeToo, que le MeToo ne s'abatte sur l'hôpital. Depuis, ça a un peu changé. Alors vous, ce que vous décrivez, c'est conforme à ce qu'on dit aujourd'hui. Hein. Vous dites que vous avez vous êtes passé sous les abus, mais vous avez eu des propos sexistes.
Oui, tout à fait. Alors en fait, Malheureusement, à l'hôpital, on est toujours en retard. Hein. Les médecins sur les réseaux sociaux, on est arrivé après tout le monde. Le hashtag MeToo hôpital, on est arrivé après le hashtag MeToo. Mais je trouve que c'est un sujet qui est important de s'en emparer parce qu'il faut dénoncer justement ces faits, ces remarques sexistes ou les gestes qui sont à connotation sexuelle. Et je pense que justement, c'est en parlant et en libérant la parole que les gens vont peut-être arrêter et prendre conscience que ce n'est pas normal.
Alors, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on appelle le contexte carabin.
Voilà,
l'ambiance carabine qui justifierait justement ces comportements en disant finalement ça a toujours été comme ça.
Voilà, en fait
c'était d'humour.
Voilà ce qu'on me dit moi souvent parce que voilà, je m'étais exprimée sur Twitter au sujet des fresques qui ont pour moi un caractère pornographique et sexuel et je m'étais exprimée le dessus en disant que j'étais pour leur suppression et que moi ça me dégoûtait le midi de manger devant ces dessins. Et on m'avait répondu « Ah mais t'as pas d'humour, ah mais c'est l'ambiance carabine, tu ne peux pas effacer l'histoire de la médecine, du coup tu es pour la censure des dessins ». Et en fait, c'est vrai que c'est beaucoup mis sous le couvert de « mais c'est l'ambiance carabine, c'est pour rigoler, c'est pour décompresser ». Alors je suis désolée, pour décompresser, on peut faire du sport, on peut lire un livre, on peut aller au cinéma, on voyage, on regarde un reportage, un documentaire, on écoute un podcast. Mais pour moi, faire des blagues de cul, c'est pas une façon de décompresser, non.
Donc ça, vous le racontez dans votre livre, finalement.
Sur
les internes, enfin voilà, sur les femmes, ce qu'elles vivent, hein, finalement.
Moi, je suis passée entre les mailles du filet. La seule chose que j'ai eue, c'était au bloc opératoire, justement. C'était une blague de cul qui était directement visée sur moi. J'ai pas répondu et voilà, j'étais un peu gênée, mais voilà, j'ai pas fait de bruit. Et en fait, une co-externe qui était déjà passée dans ce stage, elle aussi avait eu une réflexion sur le cul. Et elle s'était rebellée en disant « bah ouais, et alors ?» Et le chef lui avait dit « bah non, mais t'es insolente, tu sors du bloc opératoire. » Donc du coup, je savais que si j'étais insolente, j'allais me faire sortir du bloc opératoire. Donc j'ai décidé de rien dire et de faire profil bas.
Il y a une culture de l'omerta à l'hôpital ?
Ça dépend.
Est-ce qu'on dit clairement, non, faut pas en parler, ça. Tais-toi, tu vas pas avancer, ça va nuire à ta carrière.
Clairement, oui, clairement, ça dépend des services, ça dépend où. Je dirais que la majorité, c'est ça. La majorité des services, c'est tais-toi et si tu veux avancer, tais-toi. Mais il y a des services aussi où le chef de service, il va pas prendre ça à la rigolade, il va prendre ça très au sérieux et il va convoquer les intéressés et faire en sorte que ça se reproduise plus. J'ai entendu les deux histoires. Après, j'encourage bien sûr les victimes à en parler autour d'elles et j'encourage aussi les gens qui sont témoins de ces choses-là à ne pas dire aux victimes mais tais-toi, mais justement à les encourager et à leur dire écoute, je te soutiens et je te comprends, parce que moi je trouve que les témoins aussi qui ne disent rien, ils sont aussi coupables que les agresseurs.
Alors, vous publiez votre premier livre, Docteur, aux éditions de l'Iconoclaste Médecine au rayon X. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur YouTube et on vous retrouve sur les réseaux.
Merci Philippe.
Non mais rappelez l'adresse des réseaux.
Ah oui, le compte c'est @thefrenchradiologiste. Alors the c'est en anglais, c'est THE et French française radiologiste.
Si vous voulez tout savoir sur l'IRM par exemple.
Ou sur l'échographie, le scanner, ou le dépistage du cancer du sein.
Voilà, il faut y aller. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM. Bien plus qu'une radio.
Et je crois qu'on est maudit. On a connu l'amour là où la haine se paye. Plusieurs jours de bénéfices dans la même semaine. 6 ans après, j'ai pas idolâtré, pas la même semelle. Trop d'œil sur moi. J'ai toujours le fer, j'ai tenu le buzz. Enfant de la cahier, j'ai déjà pris le bus. Et c'est comme ça tous les soirs. J'ai pas envie, je l'ai félicité. J'ai pas regardé, je l'ai visité. Trop de sournois.
Beaucoup de problèmes, peu de possibilités. On garde l'ego et l'humilité. Visibilité, rentabilité. On se tire dessus pour des débilités. Est-ce que t'es prêt à perdre tes fans ou même ta famille pour ta crédibilité? Ils parleront sur mon dos, mais ça je le sais. Tu m'as vu faire, tu leur dis que je mens. On fait des briques où y'a plein de ciment. Je veux pas de la moitié, y'a pas de parité. Je répète, on fait des briques où y'a plein de ciment. Mourir à j'ai vers les carrément. Et je crois qu'on est maudit. On a connu l'amour là où la haine se paie. Plusieurs jours de bénéfices dans la même semaine. 6 ans après j'ai pas idolâtré pas la même semaine.
J'ai fini ma vie près des caïmans, dans un caïman. Dans la ouf des canines de caïmans. J'ai mes paiements. Et la petite fait passer la baïda dans son vagina. Elle m'a dit qu'elle rêve que je lui fasse un Luc Besson. Pendant que j'agresse au rat de maison. Sur mon poignet j'ai plus que 2 maisons. Sur le boulevard et plus toutes les saisons. J'ai pas besoin de te parler de ma life en détail. Mais j'pourrais te noyer dans tous ces designers. J'essaie d'éraquer mes émotions d'ail. Comme si jamais jamais quitté la caille. Entraîne-moi c'est confidentiel. Putain de poignet présidentiel. Je sais que t'as du potentiel. Bébé je sais que t'as du potentiel.
Ils parleront sur mon dos mais ça je le sais. Tu m'as vu faire tu leur dis que je mens. On fait des briques où y'a plein. Je veux pas de la moitié, y'a pas de parité. Je répète, on fait des briques où y'a plein de ciment. Mourir à j'ai vers les caïmans. Et je crois qu'on est maudit. On a connu l'amour là où la haine se paie. Plusieurs jours de bénéfices dans la même semaine. 6 ans après, j'ai pas idolâtré pas la même semaine.
Plus qu'une radio.
Mali,
mali, mali,
mali,
mali,
mali, mali,
mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali, mali,
على الالي والرتور
رتور
سكت شوف وتفرج يا بيبي ضمور انا اعرف وباصيك انت كابر محضور عشيق
تيه فريلي صمغيم يعرفو لك
مالي مالي مالي
انت لك جديد في باليا
مالي مالي مالي
حياتي قالية ليا
مالي مالي مالي
انت لك جديد في باليا
مالي مالي مالي
حياتي قالية ليا
طعت الروز ولا بارج هاي اسمح لنا برغي عودوا لي
اليوم الحفلة صاحبي صواري مخلطة الهضرة غياليك دايرينك واسطة ايونا مارك رهنا والله بسطة اي ما يفوتش نهار بلا ما يجب لوزمي حسبتهم اصحاب هما دي زنني كتني تعمار املي جين كلمي
Bien plus qu'une radio.
الحب غامق